médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à choc.ca, à l'émission La Faute aux médias. C'est notre première émission de la saison estivale, donc re-bienvenue parmi nous, bienvenue aux nouveaux auditeurs. Donc cette semaine, on va parler d'un sujet particulier, on va parler de sport. Vous allez me dire, bon, le sport, les médias, la politique, est-ce que ça a vraiment un lien? Eh bien, c'est un lien qu'on ne voit pas toujours, mais qui est tout de même très présent. Donc aujourd'hui, autour de la table, nous avons Charles Lemieux, Isabelle Chénier ainsi que Marie Chabot-Johnson. Et à la technique, nous avons Camila Rodriguez-Sea. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc
bonjour.
Tout de suite, on va enchaîner avec Marie. Donc les Jeux olympiques, on en entend parler souvent dans les médias ces temps-ci. C'est une occasion de parler des sports amateurs, mais c'est aussi une chance de s'intéresser à la politique internationale. Donc, pourquoi, Marie, les Jeux olympiques sont-ils plus politiques qu'on le pense?
Mais oui, en fait, on pourrait penser que les Jeux olympiques, c'est juste une question de sport. Même dans la charte olympique, on dit au chapitre 7, et je cite, « Aucune démonstration politique, religieuse ou de propagande raciale sera tolérée sur les installations politiques. » Donc, est-ce qu'on pourrait penser que ça serait un événement qui serait apolitique? Mais en fait, je pense que non, puisque déjà à la base, avec le principe de faire de la compétition sur l'appartenance nationale, ça devient politique. Par exemple, si on pense juste, les médailles sont toujours associées au pays. T'sais, au Canada, on connaît peut-être nos athlètes ou on va connaître des vedettes internationales comme Michael Phelps, mais pour les autres athlètes de pays un peu plus underground, on va pas tant les connaître. Quand on va voir une compétition d'athlétisme, par exemple, on va dire « Le Kenya a gagné les trois places sur le podium », mais on dira pas quel Kenyan nécessairement. Donc, moi, je pense vraiment que c'est vraiment par pays. Aussi, à la fin de la journée, on voit un tableau des médailles. Donc, c'est comme le but des Jeux olympiques, c'est d'affirmer notre supériorité nationale. Puis on a pu voir aussi à travers l'histoire, si on regarde un peu les Jeux olympiques à Berlin en 1936, Hitler, le but d'avoir les Jeux olympiques là-bas, c'était de rénover la ville, montrer à quel point c'était beau et montrer un peu la supériorité du peuple allemand. On a vu que ça a plus ou moins marché parce qu'il y avait eu Jesse Owens, qui était un Afro-Américain qui avait été le héros des Jeux. Mais ça reste que le régime de Hitler avait réussi à légitimer son pouvoir, l'Allemagne, aux yeux de la société internationale.
Donc, dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les Jeux olympiques seraient en fait qu'un prétexte, ce serait en fait l'outil des grandes puissances.
Oui, en relation internationale, on aime ça utiliser cette expression-là. Donc oui, les Jeux olympiques, c'est du dépassement sportif, c'est des spectacles, mais c'est aussi vraiment un instrument politique à savoir est-ce qu'il va y avoir de la reconnaissance d'un pays ou non. Par exemple, à Londres, en 1948, on a exclu l'Allemagne et le Japon à cause de leur rôle dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans le fond, on reconnaissait pas le pays à cause de ça. Mais c'est aussi l'occasion de faire de la protestation. Comme par exemple, l'Afrique du Sud a été exclue des Jeux olympiques de 1960 à 1992 parce que la communauté internationale voulait protester contre l'apartheid. Puis même au sens inverse, on peut aussi faire une démonstration en faisant un boycott. Par exemple, avec la guerre froide dans les années 80, tous les pays, 40 pays du bloc occidental avaient boycotté les Jeux de Moscou en 1980 pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan. Et ils ont fait la même chose après ça en 1984 avec Los Angeles. L'URSS et 14 nations avaient protesté en faisant un boycott. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une symbolique. Si c'était juste une question de sport, on ne ferait pas tout un tas d'actions politiques juste en rapport avec ça.
Mais maintenant, on ne voit pas trop ce genre d'histoire-là, comme ne pas recevoir les invitations ou boycotter les Jeux, c'est plus rare, là.
Oui, c'est sûr que maintenant, ça serait un peu mal vu de dire « Hey, toi, t'es pas mon ami politique, donc je t'enverrai pas d'invitation. » Mais c'est beaucoup plus subtil. Les Jeux olympiques restent importants au niveau politique. Si on pense un peu à comment on pourrait légitimer un pays, parce qu'on s'entend que c'est souvent des grandes puissances qui vont finir par avoir les Jeux olympiques parce que ça coûte vraiment cher. Donc, mais par exemple, quand on veut faire rentrer un pays dans le cercle des grandes puissances, on utilise un peu les Jeux olympiques. On l'a vu en 2008 en Chine. Par exemple, l'État voulait vraiment montrer toute une image moderne de l'État, mais on n'a pas parlé du tout des droits de l'homme. Donc, on a voulu légitimer la Chine en montrant juste l'image qu'on voulait d'elle. On a fait la même chose après ça en Russie en 2012. On n'a pas parlé des lois contre la communauté LGBT, mais on a voulu montrer juste le côté qui était tout beau, tout chaud, tout propre, mais après ça, le reste du pays était comme délabré. Donc, le but, vraiment, c'était de montrer une belle image. Donc, même si on dit au chapitre 7 que ça devrait être apolitique, en évitant de mettre les protestations, dans le fond, on joue un peu le jeu des pays hôtes. On montre qu'est-ce que l'autre veut montrer, mais pas nécessairement toute la vérité objective.
Non, c'est ça. Puis ça peut même s'appliquer aussi au championnat du monde de soccer, là, comme par exemple ceux qui s'en viennent, là, où on décrit beaucoup les droits humains qui sont bafoués dans les chantiers. Là.
Ouais.
Donc, puis tout ça, comment ça s'applique au Brésil, justement, parce que les Jeux olympiques s'en viennent là, dans très peu de temps?
Oui, dans 99 jours précisément au Brésil. Mais en fait, le Brésil, c'est un peu un flop en ce moment parce que au début, c'était vraiment essayer de rentrer le Brésil dans l'économie mondiale, montrer comment ça pouvait être une grande puissance aussi. Dans le temps qu'ils ont eu la candidature, c'était vraiment une économie qui était florissante. Ça faisait partie du BRIC, les grosses économies émergentes, presque 8% de croissance. Donc, eux, ils voulaient vraiment pouvoir affirmer leur rôle sur l'échiquier mondial puis montrer qu'ils étaient vraiment le leader de l'Amérique latine. Et rentrer après ça dans le cercle des grandes puissances parce qu'on sait que c'est juste des puissants qui peuvent avoir l'argent à investir dans autant d'infrastructures. Sauf que là, avec toutes les crises qu'on a vues, crise économique, crise politique, crise environnementale qui se passe en ce moment au Brésil.
Et la chute de la valeur du pétrole là, qui les a beaucoup affectés aussi.
Oui, entre autres, mais pas tant que ça au Brésil parce que c'est pas autant le pétrole que d'autres matières premières. Et la demande qui a tellement été en chute dans ce pays-là a fait que l'économie a complètement crashé et a fait que tous les programmes sociaux qui étaient hautement financés par l'État ne peuvent plus tant l'être et d'autres programmes environnementaux. Mais oui. Je vais laisser le bénéfice à ma collègue Isabelle de pouvoir vous en parler prochainement.
Merci.
Ben, merci beaucoup, Marie. Donc justement, maintenant, on va se diriger vers Isabelle, qui va nous apporter un peu plus de précision sur ce qui se passe au Brésil. Donc, pour la première fois en Amérique du Sud, les Jeux olympiques vont avoir lieu cet été à Rio de Janeiro, du 5 au 20 août 2016. C'est quand même exceptionnel.
Ah, tout à fait, mais avant de commencer... 3, 4, eh bien, hier, Emilia, le 27 avril, marquait le décompte des 100 jours d'ici la cérémonie d'ouverture des JO. Une question, bien sûr, brûlait les lèvres. Le Brésil est-il prêt?
Ouh, bon. Je me doute un peu de la réponse.
Tout à fait, Emilia. Bon, donc, en 2014, la progression des préparatifs pour les Jeux olympiques avait suscité quelques inquiétudes. À cette même époque, le représentant australien du Comité international olympique, John Coates, avait notamment qualifié l'avancement des travaux comme le pire de l'ère moderne.
Ouf!
Oui. Nous voilà en avril et la cérémonie d'ouverture des Jeux arrive à grands pas. Or, le Comité international olympique a annoncé que les installations sont prêtes à 98 %. Rassurant, Rio a hérité et bénéficié de diverses installations remontant aux Jeux panaméricains de Rio en 2007 qui seront réutilisées pour les JO d'été de 2016. Malgré ce point positif, le Brésil souffre d'une importante récession. Comme Marie l'a mentionné plus tôt, plusieurs coupures dans le budget olympique ont été faites. Ceci compromet l'aboutissement des travaux dans les temps. Par exemple, la ligne de métro de 16 km permettant une liaison rapide entre les principaux sites olympiques n'est toujours pas terminée.
Ouf, le métro!
Oui, pour témoigner des avancements des travaux et ainsi rassurer les athlètes canadiens, une troupe d'éclaireurs provenant principalement du Comité olympique canadien s'est rendue sur les lieux durant l'hiver. Ricky Landry, gestionnaire des communications du Comité olympique canadien, a assuré lors d'une entrevue téléphonique avec la presse canadienne qu'à la lueur de cette mission de repérage, il n'avait rien entendu de négatif. Je cite, « Les logements sont pas mal prêts. Personne au sein de l'équipe n'a eu de mauvaises surprises. »
Bon.
Je ne puis être sûr comme un citron devant de telles affirmations qui se veulent rassurantes, mais peu convaincantes, Emilien.
Mais en effet, on a lu que la presse on a lu dans la presse, en fait, que lors d'un premier test olympique de voile à Rio, dans la baie de Guanabara, les navigateurs se sont heurtés à quelques imprévus.
Heurtés est bien le mot. En effet, le voilier du champion olympique australien Nathan Outridge est entré en collision avec un chien mort. D'autres navigateurs ont par ailleurs raconté avoir vu ou dû éviter des chats et des rats morts, des tables, des chaises ou des valises flottant dans l'eau.
Donc, c'est un vrai chien mort et non juste une expression?
Non, oui, il était bien réel.
Donc ça nous donne une petite idée de la qualité de l'eau.
Tout à fait. Il est important de noter que les épreuves de voile, de canoë, kayak, d'aviron et de nage en eau libre se dérouleront dans les eaux polluées de Rio. Et quand je dis polluées, c'est presque un euphémisme. Près de 70 % des égouts de la ville de Rio, composée de 10 millions d'habitants, se déversent dans la baie de Guanabara. En fait, Rio de Janeiro a préservé le même système d'assainissement des eaux qu'au 18e siècle. Son principe demeure assez simple. Tu fous tout dans le fleuve. Dans le fond, le scandale du Flushgate qui a lieu à Montréal cette année est une affaire bien banale car quotidienne dans la ville de Rio. De plus, une enquête menée par le biologiste américain John Griffith, conjointement avec la Société de Presse, a révélé que le risque d'infection digestive et respiratoire s'élève à 99 % suite à une ingestion équivalente à 3 petites cuillerées d'eau de la baie de Guanabara. Ce risque est provoqué par une superbactérie provenant des déchets hospitaliers qui s'y trouvent. Cette bactérie est d'ailleurs résistante à la plupart des antibiotiques courants. La microbiologiste Anna Paula D'Alenco, responsable de l'étude de l'Institut Oswaldo Cruz, souligne qu'en cas d'infection, il est possible que le traitement exige une hospitalisation et des antibiotiques qui ne sont plus utilisés parce que toxiques pour l'organisme.
De quoi rassurer les athlètes. Oui. Mis à part ce scandale-là environnemental, le virus Zika demeure une autre source de préoccupation en ce qui a trait à la santé des athlètes.
Oui, le virus Zika, transmis par les moustiques et sexuellement, a infecté environ 1,5 million de Brésiliens en 2015. La contraction du virus par un athlète occasionnerait pour celui-ci des symptômes similaires à ceux de la grippe. Donc, imaginez maintenant un nageur olympique en eau libre, en pleine compétition, avec une fièvre s'élevant à 40 degrés et tentant de parcourir la distance nécessaire tout en essayant d'éviter les étrons qui se présentent sur son chemin. Bon, il faut quand même noter que le mois d'août, soit la période durant laquelle les épreuves se dérouleront, est la plus froide de l'année pour le Brésil. Ceci pourrait donc réduire le risque de propagation du virus, étant donné que les mosquitos sont moins présents. Aussi, les pesticides sont utilisés pour tuer les moustiques et ainsi réduire le risque de transmission du virus Zika. Bon, bref, à la lueur de ce portrait peu radieux pour les Jeux olympiques de Rio, certains diront que tout pays hôte font face à quelques imprévus avant l'événement. Bon, par exemple, les JO de Beijing en 2008 avaient retenu l'attention par la situation déplorable des droits humains en Chine, ainsi que le niveau élevé de pollution dans l'air. Quant aux Jeux de Sochi, quant à eux, ont aussi provoqué un lot de protestations pour dénoncer les lois anti-LGBT tenues par le gouvernement russe. Or, nous voilà 100 jours avant le jour J, le Brésil doit jongler avec le virus du Zika, la pire récession économique depuis la Grande Dépression de 1930, les eaux ravagées par la pollution et, dernièrement, une crise politique menant à la destitution de la présidente Dilma Rousseff pour avoir maquillé le déficit public lors de sa campagne de réélection en 2014. Pour terminer, il existe une expression anglaise qui décrirait bien la situation actuelle au Brésil. « When the shit hits the fan ». Merci. De retour à vous, Emilia.
Toujours le mot pour rire, Isabelle. Merci beaucoup. Donc maintenant, on se quitte pas très longtemps pour une très belle chanson, « Slow One » de Koi Child.
My rule book was ruled out for rolling roaches into ready-made joint train tracks of distraction. Had to re-back to catch what actually happened. Full pack bags and school pants sacked down. A hair up on my chinny chin, becoming a man now. That's how they get you to shave with razors. Smooth face to match with the lame behavior. Made me wonder if I'd ever freaking fit in. Starting with the stands, I hired friends from the beginning. And then we best friends, let the bond get stronger. Brothers till the end, yep, the song gets longer than the last one. Take two marks and pass on to a better place. But it only really cost one. Caught a ride for life, a lot of time wasted. Hold back the knowledge, hit him with the education. I'm in a school.
bus, ready for my brainwash. Get a cool rush, though the teacher give me flames. Such is life, introduce the risk to my knife. If I know I'm gonna fail, though the answer's right. Might be incorrect, though perspective is wrong. Rather go to art class, let me play a song on my iPod. Sketch light dark for contrast, and give me grayscale. Colorblind, and I'm not fast at all. And all upon the wall, I can't reach the neighbor, though I'm long and tall. Are y'all gonna eat those toasts? Cheesy toes, school girl for lunch, she like no, he grows below, no, not again with this rejection. Teachers threw me out, keeping me guessing, and then I bomb out, buckle the talk, and I take the next route and rap. When they get the paper, get the pen out for track.
De retour à la photo média sur les ondes de choc.ca, vous venez d'entendre Slow One de Koi Child. Ici Émilien Roscanou, votre animateur, et on s'en va maintenant avec Charles Lemieux. Donc Charles, tu vas nous parler de la candidature de Québec pour obtenir les Jeux olympiques en 2026.
Oui, certainement Émilien. Alors comme vous le savez, notre La Bombe nationale a commencé à faire des démarches pour que sa ville soit hôte des Jeux en 2026. Ça fait longtemps qu'il en parle. On constate toutefois que la population semble plus ou moins en accord avec le projet, en tout cas selon un sondage maison du Journal de Québec sur près de 1600 lecteurs. Seulement 36% d'entre eux seraient favorables aux Jeux de Québec, à n'importe quel prix ou pas à n'importe quel prix. 62% seraient simplement contre. Bon, est-ce que les sondages maison du Journal de Québec sont représentatifs? Sûrement pas, mais ça donne une idée. Finalement, après avoir fait des démarches depuis plusieurs années, le maire de Québec a décidé que la population serait consultée si la ville est effectivement choisie comme candidate, mais il refuse de faire un référendum sur le sujet, référendum qui serait trop coûteux à son goût. Ce référendum coûterait 6 millions de dollars. Il pense plutôt à intégrer cette question dans une future élection pour éviter les coûts supplémentaires. Je vais vous lire ce qu'il a dit exactement. Ce que je vous dis, c'est que je dépenserai pas 6 millions de dollars pour un référendum. Oubliez ça, c'est-tu clair? Je veux que ça soit bien clair. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse consulter notre monde en même temps que l'élection. Ça serait bien moins compliqué, ça coûterait pas une scène de plus. Légalement, tu peux pas faire ça. C'est ça le problème.
Évidemment, tu sais, la loi.
Ah, la loi, hein. C'est pas facile. Bon, un sondage dans le Journal Québec, c'est pas coûteux. Ça pourrait se faire, surtout avec ses amis à Québécois. Mais bon. l'opposition a reproché au maire d'être en mode olympique, entre guillemets, et de ne pas prendre en compte les besoins des citoyens. Démocratie Québec, qui est le parti de l'opposition, a également parlé de possibles conflits d'intérêts. Le maire ayant visité le comité olympique à Lausanne en Suisse avec Patrice Drouin de Gestev, une filiale de Québécois, au lieu des classiques fonctionnaires de la ville. Mais bon, ça serait pas la première fois que le maire de Québec oublie les réels besoins de la population du Québec et qu'il se tient très près de Québécois.
On s'entend là-dessus. Mais là, la bombe est possiblement en mode olympique. Alors pourquoi c'est pas encore confirmé cette candidature-là? Pourquoi pas Québec?
Bon, la ville de Québec a plusieurs facteurs qui pour l'instant lui nuisent dans sa candidature. La ville n'a effectivement pas de montagne à proximité pour les épreuves de ski. Le massif de Charlevoix avait été proposé au comité olympique, mais ça manquerait de, entre guillemets, facteur wow.
Wow.
Bon, c'est quoi un facteur wow?
Ouais, il n'y a pas juste le facteur wow, c'est la longueur de ton dénivelé. Donc, il y a un moment, ils voulaient genre ajouter un petit bout à ton massif de Charlevoix pour que ça soit un peu plus loin.
Ouais, ouais, il y avait parlé de faire une espèce d'affaire artificielle pour que le dénivelé soit assez gros, mais paraît que c'est rendu accepté dans le comité olympique. Mais bon, le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, a aussi mentionné que le Mont Tremblant pourrait être parfait pour des épreuves de ski, mais selon la bombe, c'est pas un mont suffisant pour le comité olympique et que si tel avait été le cas, il le saurait.
Ben, il faudrait qu'il fasse ça sur le Mont-Royal, tant qu'à y être.
Ça serait parfait.
Le maire Denis Coderre serait bien trop content.
Ben oui. Et la possibilité d'une candidature conjointe réunissant Lake Placid et Québec a aussi été évoquée par le maire Labombe, mais le comité olympique américain aurait refusé, et c'est lui qui chapeaute tout, donc s'il dit non, c'est non. Ce comité était en train de se concentrer sur les Jeux à Los Angeles en 2024. Lake Placid aurait aussi été un bon choix, évitant à Québec de construire des infrastructures peu utiles à long terme, comme des descentes de bobsleigh, de luge ou de skeleton, ou une rampe de saut à ski. Rappelons également que de telles infrastructures sont disponibles à Whistler et Vancouver, mais bon, Québec-Whistler, c'est un peu loin.
Légèrement loin. Mais Charles, les médias semblaient s'entendre, c'est cher des Jeux olympiques, ça laisse des infrastructures dont personne ne veut, et Québec aurait pas les moyens. Qu'est-ce que Québec aurait à y gagner?
Bon, il y a quand même quelques avantages à tenir des Jeux olympiques. Le maire Labombe a parlé de pouvoir faire des démonstrations de courses de canots sur le fleuve et faire un peu comme le Red Bull Crash Test pour peut-être éventuellement mettre ça dans les Jeux olympiques. Il dit que ça serait très intéressant selon lui. Évidemment, on parle aussi de possibles retombées économiques importantes pour le pays, pour le pays du Canada, mais pour la ville de Québec surtout. Ça reste en théorie. Le gouvernement provincial de M. Couillard a d'ailleurs appuyé la candidature de Québec, rappelant que ses retombées économiques allaient être intéressantes. Québec a aussi préparé un magnifique document promotionnel qui a été remis au comité olympique, vantant les mérites de la capitale avec des images spectaculaires de la ville et des belles phrases vides. On voudrait savoir c'est quoi exactement des jeux à échelle humaine.
Bonne question. Sur cette interrogation, on se revoit tout de suite après une petite intermède.
Merci.
De retour à la faute aux médias, troisième et dernière partie de l'émission, on se demande ici en studio, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir des Jeux olympiques aujourd'hui en 2016?
La grosse question.
Oui.
Oui, hein, dans les avantages que tu énumérais, Charles, le premier, c'est quand même de pouvoir faire une démonstration de canot sur glace. C'est un peu triste que ça soit le premier avantage qu'on évoque hein, quand même.
Ben, j'en ai parlé parce que les médias québécois en ont beaucoup parlé. Le Journal de Québec en a parlé. Je pense que Le Devoir en a pas parlé, mais la presse en a parlé aussi. Puis on dit que le maire Labombe voulait faire des démonstrations de canots sur glace aux prochains Jeux olympiques. Je trouvais ça assez pertinent.
Mais si la régie peut se le permettre, là.
Joins-toi à nous, Camilla, pas de problème.
Le sport occupe quand même une place extrêmement grande dans qu'est-ce qui est consommé dans les médias. Donc, j'imagine qu'en cas de Jeux olympiques, ça serait bon pour les médias, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis bien d'accord.
Je veux dire, ça serait un bon move dans le sens que, ben, je veux dire, pour les médias, je sais bien que ce n'est pas les médias qui décident officiellement. Mais c'est ce qu'on dit, ce n'est pas la faute aux médias. Mais quand même, hein, c'est vraiment, je pense que dans les derniers rapports d'influence, c'est quoi, Charles?
Influence communication.
Ouais, le sport arrive dans le premier de ce qui est consommé. Puis imaginez, là, si habituellement le Canadien gagne, je veux dire, l'équipe canadienne gagne au hockey dans les Jeux olympiques. Donc, mm-hmm. imaginez si c'était au Québec qui gagnait, ça serait la folie.
Oui, des nombreux contrats publicitaires, là, ça serait la manne pour les médias.
Oui, mais selon Influence Communication, à chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques, en fait, c'est toujours mm-hmm. un des événements d'importance. Puis mm-hmm. c'est une des affaires qui est le plus regardée. Mais on peut se questionner, est-ce que les retombées médiatiques, même si elles sont importantes, est-ce que ça va vraiment justifier les milliards de dollars investis par la ville, payés par nos taxes à nous? Oui, on paye des taxes. Par nos taxes à nous. Est-ce que ça justifie vraiment tout ça?
Donc, clairement, c'est pas juste des retombées ouais. médiatiques. Là,
non,
mais
c'est clair.
Ce qu'on vend souvent, c'est les retombées... commerciales, économiques, tourisme, etc.
Ouais, mais même là, au niveau économique, il y a des études qui sont sorties que soit qu'à court terme, c'est jamais rentable. À long terme, est-ce que ça va être rentable pour faire connaître la ville puis créer un peu un sentiment de touriste et les gens de venir? Mais, tu sais, il faut regarder, est-ce que les installations vont être utilisées? Oui. Si les installations ne sont pas utilisées, on a des coûts d'entretien et on n'a pas de coûts de bénéfices parce que être capable de remplir des hôtels, c'est pas nécessairement ça qui va faire que ton événement va être rentable et va être pertinent. Parce qu'il y a beaucoup d'installations à créer, puis il faut trouver une façon de les réutiliser.
Oui.
Tu sais, un peu, par exemple, avec le Brésil, mm-hmm. quand ils ont fait le mondial de soccer, ils l'ont fait vraiment juste avant les Jeux olympiques. Donc, au moins, ils ont réutilisé ces installations-là. Mais maintenant, avoir 4-5 stades de soccer, c'était moins facile.
Oui, puis c'est comme le stade olympique là, des Jeux olympiques de Montréal de 76. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à diversifier son utilité. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça impose de très grands défis là, pour les villes dans lesquelles les Jeux olympiques s'installent.
C'est peut-être meilleur surtout pour l'ego que pour le portefeuille, dans le fond.
Ouais. Exact. Mais surtout avec... mais là, je m'éloigne du Québec, là, mais comme même avec le Brésil, quand j'ai fait ma recherche, j'avais lu que côté environnemental, c'est peut-être pas le mieux, là. On a construit un terrain de golf sur une zone protégée environnementale. Puis après, le terrain de golf, ben qui va l'utiliser? Est-ce que ça va être les Brésiliens? Ça va être toute l'idée de construire des énormes infrastructures qui coûtent des millions de dollars puis qui vont pas être utilisées par les citoyens. Bon, à quoi bon? C'est sûr, ça va avoir des retombées médiatiques, quoi qu'éphémères, j'imagine. Aussi au côté argent, je pense pas que ça va faire des grosses retombées. Ben, ça va faire des... Mais je sais pas si ça va faire tant des grosses retombées que ça, là, mais...
Mais médiatique, je disais, oui, des retombées médiatiques. Ultimement, je dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, là, mais juste, ça fait l'affaire. Il y a des gagnants dans cette histoire, là.
Oui, il y a des gagnants, c'est clair.
Oui, c'est toute une histoire politique, on le sait maintenant. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette superbe conversation sur la pertinence des Jeux olympiques. Encore une fois, j'aimerais remercier mes collaborateurs, Charles Lemieux, Isabelle Chénier, Marie Chabot-Johnson, ainsi que Camilla Rodriguez-Ca qui fait également la technique. Merci à tous.
Merci.
Merci. À la semaine prochaine.
On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de la Photomédia. Mon nom est Émilien Roscanou et on se laisse en musique avec la chanson « Prends ton temps » de Marie-Claire.